Ça y est, on est installé. Merci d'être venu pour notre deuxième conférence, notre deuxième présentation ici à Limoges. Nous avons le plaisir de venir ici de temps en temps. On a la famille ici et puis on a pris connaissance. Il y avait quelques personnes autour de Limoges qui s'intéressaient à ce sujet, le sujet de la philosophie ou la recherche après la vérité, n'importe la façon peut-être qu'on conçoit de cette idée de vérité. C'est vrai, effectivement, peut-être nous n'avons pas choisi le meilleur jour pour le faire, la fête des mères, mais bon, voilà, quand on a fait le planning, c'était, on n'avait pas vu ça. On a regardé pour toutes les autres contre-temps éventuels, surtout pendant le mois de mai, avril. Il y avait pas mal de week-ends un petit peu pris par les congés, les ponts, ce genre de choses. Donc voilà. On est un petit groupe intime aujourd'hui, mais néanmoins, on peut faire un bon petit travail. Notre idée, c'est de vous faire voyager un petit peu dans l'univers et dans un autre univers, dans l'univers de cette philosophie d'un cours en miracle que nous avons vraiment le grand plaisir de présenter. Nous essayons de continuer le travail d'une certaine personne, d'abord la personne qui a écrit le livre et l'esprit derrière ce livre d'un cours en miracle, et par la suite le professeur, l'enseignant qui nous a appris tant, qui nous a partagé tant, ce qui est bien sûr le docteur Kenneth Wapnick. Nous essayons de vraiment étendre son travail et son aperçu, sa vision d'un cours en miracle qui nous semble tellement riche et qui nous a aidé tellement dans notre propre recherche à avancer vers plus de clarté, plus de sens, plus de richesse sur le plan intérieur. Kenneth Wapnick, il était bien sûr l'une des premières personnes à prendre vraiment connaissance ou saisir l'importance, peut-être plutôt, de cette œuvre de philosophie. Et il n'a pas arrêté depuis à partager ses connaissances et sa vision des choses qui nous semble tellement juste et tellement claire. Que ça nous a donné une grande envie de faire ce travail en France. Je suis Australien moi-même. Voilà, je suis arrivé en France en 1988. Et à ce moment-là, je venais d'acheter le livre moi-même pour la première fois. Je ne l'ai pas vraiment quitté depuis, même s'il y a eu des moments de haut et de bas. Comme avec tout, on se bataille un petit peu avec sa philosophie chérie, peut-être des fois, à trouver le bon équilibre pour avancer, pour le saisir, mais en même temps d'être presque dégoûté par tous les obstacles qu'on doit traverser. Et enfin, on aperçoit que petit à petit, on arrive à suivre un mouvement très très légèrement vers le haut, même s'il y a des hauts et des bas sur le chemin. Ce qui est, selon ce que je comprends, tout à fait normal. Donc, pour juste parler deux mots par rapport à cette philosophie, puisque je vois des visages qui sont ici pour la première fois, et ce que nous avons fait la dernière fois, de faire une plus grande présentation vraiment sur les origines et sur la nature de cette œuvre. Et donc nous allons faire d'une façon un petit peu plus sommaire là maintenant, juste pendant quelques minutes. C'est simplement un livre au départ, un livre de philosophie et de psychologie, mais une philosophie et une psychologie qui révèle une vision tellement large, tellement énorme sur la nature de la condition humaine et l'origine de la condition humaine. D'où venons-nous? Et pourquoi nous avons l'expérience que nous avons dans ces corps? Est-ce qu'il n'y a pas une autre version, une autre forme de réalité autour de nous? Et si oui, comment nous pouvons l'accéder? Comment nous pouvons espérer d'atteindre ou de toucher cette autre réalité autour de nous? Ça a été écrit par un processus de dictée intérieure par une docteure en psychologie qui travaillait pour l'hôpital de l'université de Columbia, une université prestigieuse aux États-Unis, dans la ville de New York. C'était entre les années 65 et 75 que le livre a été écrit, transcrit, et par la suite qui a trouvé sa mise en forme pour être publié enfin en 75. Dr. Wapnick est venu faire connaissance avec l'œuvre en 1972. C'était vraiment charnier entre 72 et 73, je crois. Et puis, il a continué son travail depuis. D'abord, 8 ans d'études ou de travail ensemble avec l'auteur elle-même, Helen Schachmann. Et puis, une fois, en fait, elle est décédée en 1981. Il a continué à établir, en établissant son propre centre de formation dans l'État de New York d'abord, jusqu'en l'an 2000. Et il avait un centre de retraite assez important avec une soixantaine de chambres. C'est là où j'ai fait sa connaissance pour la première fois en 1998. Et puis, par la suite, en 2000, il a déplacé le centre de formation à Temecula, en Californie. Et nous avons la chance, nous faisons le déplacement à Temecula de temps en temps pour aller le voir, ce qui nous fait un énorme plaisir d'assister à ces conférences. C'est une œuvre qui est en fait d'autodidacte, c'est-à-dire qu'on peut le travailler tout seul dans son coin. Absolument, il n'y a pas de problème. C'est une œuvre divisée en trois parties. Une première partie de texte explicatif de cette philosophie, cette vision du monde. Une deuxième partie en livre d'exercices avec 365 exercices qui sont des fois des méditations, des fois des leçons, style court, et des fois juste des simples contemplations. Et puis une troisième partie, un manuel pour les enseignants, à savoir qu'un enseignant est simplement une personne qui a décidé qu'il veut vivre cette philosophie. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis son enseigne, je suis enseignant de cette philosophie. C'est juste quelqu'un qui s'est dit, voilà, je voudrais vivre ça si possible. À ce moment-là, il devient un enseignant, parce que dans la philosophie du cours, enseigner c'est démontrer, enseigner c'est vivre. Si on en parle spécifiquement ou non, on enseigne toujours sa philosophie de vie, sa vision des choses, ce que nous vivons, la façon que nous comportons avec les autres, enseigne aux autres toujours sa vision des choses. Soit c'est une vision d'amour, soit c'est une vision de peur. On est toujours en train de communiquer ça d'une façon ou d'une autre aux autres. Donc c'est une œuvre d'autodidacte qu'on peut travailler d'une façon autodidacte, sauf que la philosophie, la psychologie sont d'une telle j'ai du mal à dire le mot complexité, mais voilà, on a l'impression que ça peut être complexe ou plutôt sophistiqué, mais uniquement parce que nos esprits sont tellement embrouillés dans un sens. Une fois qu'on commence à mettre certaines choses en place, l'ensemble commence à sembler beaucoup, beaucoup plus clair. Mais il faut avoir une idée de la structure qui est derrière sa philosophie. Ça se lit dans un premier temps un peu difficilement, surtout en français, parce que on perd malheureusement un petit peu le côté poétique que nous avons avec la version en anglais. Les traducteurs ont fait un travail formidable, mais bien sûr avec n'importe quelle œuvre traduite, on va perdre certaines nuances de la langue d'origine. Il est un petit peu difficile aussi à lire peut-être la première fois, parce que c'est écrit dans un langage chrétien. Donc les gens qui n'ont pas l'habitude de ce langage chrétien ou qui ont une certaine compte à rendre avec l'Église, ce qui est relativement courant dans les pays chrétiens, aussi bien aux États-Unis qu'en France, qu'en Espagne, qu'en Italie. Et donc on peut heurter des fois contre ces symboles chrétiens. Je dis à tout le monde d'essayer de mettre ça d'à côté s'ils peuvent, parce que ce livre ici essaie de réinterpréter tous ces symboles du christianisme traditionnel pour donner un autre sens, complètement, complètement différent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a été écrit dans cette forme chrétienne, c'est pour essayer d'apporter une nouvelle interprétation à tous ces symboles qui étaient censés au départ être des symboles d'amour, bien sûr, qui ont été repris par l'Église, souvent pour laisser un message plutôt de culpabilité, de péché, de jugement, de condamnation, d'exclusion. Donc maintenant, les symboles sont retravaillés pour laisser un message purement aimant, d'une inclusion parfaite, d'une impossibilité de péché, d'une impossibilité d'exclusion. Mais néanmoins, la première lecture, ça peut s'avérer un petit peu complexe, ou il peut y avoir une certaine résistance ou tension à cause de ça. Donc j'encourage les gens d'essayer de mettre ces aperçus, ces tensions un petit peu d'à côté pendant la première lecture, en essayant de trouver un autre sens derrière, que peut-être l'auteur est en train de nous guider vers un autre aperçu par rapport à ces mots. Un petit mot par rapport au vrai auteur du livre, parce que c'est assez clair en le lisant que ça n'a pas pu être Dr. Helen Schuckman elle-même qui l'a écrit. Elle n'avait pas les connaissances et elle a expérimenté une grande résistance, une grande difficulté à transmettre, à écrire ce livre, simplement parce que le livre ne correspondait pas avec sa propre vision du monde. Autant qu'elle le comprenait, elle avait du mal à l'accepter pour elle-même. Donc elle a vécu très longtemps, jusqu'à la fin de sa vie, avec cette tension en elle de comprendre très bien ce que le cours voulait dire, de savoir que ça disait la vérité, ça indiquait la vérité, à savoir qu'elle ne voulait pas le vivre comme la vérité, comme sa vérité. Donc elle nous démontrait l'un des concepts ou des idées clés de cette philosophie, c'est que nous avons tout ce que nous appelons un esprit divisé. Un esprit divisé veut simplement dire que nous avons une partie juste de notre esprit, capable d'avoir des réflexions et la pensée la plus pure, la plus magnifique, le plus aimante, et nous avons aussi un esprit que nous appelons, au moins dans le langage d'un cours en miracle, l'esprit fou, ce qui est l'esprit de la séparation, de la peur, de cette tension aiguë au fond de l'esprit humain, qui est une sorte de honte et de culpabilité. Le concept de péché se trouve à l'intérieur de cet esprit fou. Donc elle nous démontrait ça, qu'il est possible d'incarner ou d'avoir les deux. Et je trouve merveilleux que l'auteur elle-même a pu nous démontrer ça. Ça nous aide énormément à savoir que nous avons tous ces deux côtés-là. Il ne faut pas en avoir honte, on n'a pas besoin de les cacher. Voilà. Nous avons tous cette dualité entre les deux parties de notre esprit, notre propre esprit divisé. Cette évidence, c'est pas elle qui l'a écrit. C'est certainement la première impression que j'ai eue quand je l'ai lu. J'ai dit c'est pas tout à fait une présence ordinaire qu'il a écrit. Au fur et à mesure que je l'ai découvert, j'ai dit il y a une présence extraordinaire derrière. Et petit à petit, ce qui se révèle, c'est la vraie identité de l'auteur, et il s'identifie comme Jésus. Qu'il est le Jésus derrière la Bible ou non, c'est toujours un petit peu compliqué. En tout cas, il s'identifie comme le Jésus qui était sur lequel la Bible était écrite. Mais par contre, on n'est jamais sûr si la Bible décrit vraiment exactement ce qui s'est produit dans la vie de cette personne. Qu'il a existé quelqu'un au nom de Jésus ou Yeshua, n'importe la façon qu'on retourne son nom. Il semble évident, relativement évident, ou certainement très probable qu'il a existé. Cette personne, mais on n'est certainement pas sûr ce qu'il voulait dire. On est à peu près sûr que ce qu'il voulait dire n'est probablement pas ce qui est écrit et transmis par la Bible et le christianisme. Parce que s'il voulait nous communiquer quelque chose, c'était probablement plutôt quelque chose de l'ordre de l'amour, quelque chose d'aimante. Or, ce qui sort bien sûr du christianisme et de la Bible n'est pas tout à fait ça. Ce livre est entièrement basé sur un concept d'un amour universel, mais il nous montre par la suite pourquoi nous avons tellement du mal à entrer dans cet esprit d'amour universel et quasiment de s'exclure de cet esprit universel. Donc voilà un petit mot pour l'auteur elle-même et l'auteur, la personne qui l'a transcrit et la véritable présence qui est derrière ce livre. On n'est certainement pas obligé de croire ou d'accepter que c'est Jésus qui l'a transmis, qui l'a écrit. Ça sera utile simplement de penser que ce n'était pas l'esprit de Helen Schuckman elle-même. Ce n'était pas tout à fait un être comme les autres, c'était un autre esprit derrière, avec lequel elle était en contact étroit. On pouvait considérer que c'était son grand soi, avec un soi, un S majuscule. Ça, c'est peut-être la façon la plus juste de le dire. Elle s'est mise en contact avec le côté le plus puissant de son esprit juste, le plus grand, le plus haut de son esprit juste, et à ce moment-là, elle a transmis cette œuvre par, en utilisant le symbolisme du christianisme, en utilisant le symbole de Jésus. Nous avons tous un symbole, peut-être, d'une source d'amour qui vient d'ailleurs, d'un ailleurs non physique, d'un ailleurs abstrait. Nous pouvons nous servir du symbole de Jésus aussi bien qu'un autre symbole d'un grand saint indien ou un grand saint qui vient de l'Orient ou même un grand saint grec d'une mythologie quelconque. L'idée, c'est simplement de... Et ce qui est la plus grande utilité pour nous, c'est de savoir qu'il y a ces symboles, ces présences d'amour qui sont réelles, qui existent, qui nous accompagnent, et qui ne sont pas physiques. Ils représentent un monde qui n'est pas physique. Ils viennent de notre état d'esprit, je préfère dire. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent les mots comme dimension ou notre monde. Ma préférence personnelle, c'est juste notre état d'esprit. Ce n'est pas très loin, voilà. C'est extrêmement près, c'est juste à côté de nous. C'est même en nous, cet autre état d'esprit, cette autre dimension, si vous voulez. Et nous avons tous accès à notre symbolisme. Pour beaucoup de gens, ils aiment bien ou ils sont confortables avec l'idée de Jésus, parce qu'on a une certaine familiarité avec. Pour d'autres gens, c'est un symbole très difficile, très dur. Donc, dans la façon que moi j'enseigne cette œuvre pour l'instant, je ne passe pas beaucoup de temps sur le personnage de Jésus, parce que sinon on risque de juste aller plus dans la polémique qu'autre chose. Je préfère juste que chacun réfléchisse à un symbole qui marche pour lui, qui remplace l'idée de Jésus par un autre. Pareil pour les autres symboles dans ce livre, parce qu'il était écrit dans un langage chrétien, il y a aussi les symboles comme Dieu et le Saint-Esprit, à savoir que c'est particulièrement, les concepts particulièrement orientaux, dans le sens que Dieu, c'est juste le tout universel, l'ensemble, le grand ensemble, la grande totalité, la magnifique présence de la totalité qui est derrière le tout, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est simplement le souvenir de cette réalité magnifique qui est restée avec nous, même dans cette condition d'oubli ou de semi-inconscience. Voilà. Nous avons tous une brinde de souvenir ou de rappel quelque part dans notre esprit de ce que ça veut dire la réalité. C'est souvent ça qui nous titille, qui nous intrigue chaque fois que nous sommes devant une magnifique coucher de soleil ou une œuvre d'art qui nous parle, qui nous transporte un petit peu. Et soudain, une partie du monde ou le reste du monde s'éteint ou s'atténue dans notre perception. Et nous commençons à ressentir la présence d'autre chose qui n'est pas tout à fait physique pareil. Ça, c'est, dans le langage d'un cours en miracle, c'est simplement la présence du Saint-Esprit. C'est ce doux souvenir de notre réalité qui nous accompagne toujours. Et nous disons dans cette philosophie que Jésus est simplement un symbole ou un représentant de cet souvenir. Un souvenir qui est vrai néanmoins. Ce n'est pas juste un souvenir, ah oui, je me souviens que, voilà. C'est un souvenir vivant, ce qu'à un moment le cours appelle notre mémoire présente. J'ai trouvé une très jolie idée, parce que la mémoire, souvent, nous avons l'idée que la mémoire nous sert de nous souvenir des choses passées. Or, nous essayons de nous souvenir d'une chose présente, mais comme si nous l'avons oubliée, maintenant nous essayons de le rattraper. Et donc, il y a l'idée que la réalité autour de nous est une chose présente, mais dont nous avons oublié l'existence. Et c'est là où nous pouvons commencer vraiment à parler du thème de cet après-midi. Parce que pour ces deux présentations ici à Limoges, j'ai utilisé la métaphore, l'idée de la musique, d'une sorte de symphonie céleste, d'une sorte de musique qui traverse l'ensemble de l'existence. Comme ce souvenir de notre réalité. Nous pouvons en parler comme une musique. Et là, je vais vous lire justement un petit extrait du cours pour vous donner une idée de son langage, mais qui va peut-être vous parler comme ça m'a parlé la première fois que je l'ai lu. Parce qu'en utilisant les métaphores, ça nous aide à nous transporter dans cette autre idée, dans cet autre esprit, dans cette autre dimension, où nous commençons à nous désengager un petit peu de nos repères d'ici. C'est ce que nous cherchons, pas juste de rester avec nos repères ici, mais de commencer à déplacer ou décoincer un petit peu notre esprit du monde ici pour réfléchir et réfléchir à la possibilité d'autre chose. Et je trouve que cet extrait nous aide à faire ça. Ça ne sera certainement pas la première fois que je l'ai lu, mais j'avoue que je suis attaché à cet extrait, c'est plutôt, je trouve que c'est tellement parlant à n'importe quel niveau. Quand on prend le livre pour la première fois ou on est très expérimenté, nous oublions toujours que ce que nous cherchons n'est pas une chose qui n'est pas présente, mais une chose présente. Ça ne peut pas être plus présent. La réalité ne peut pas être moins présente. S'il y a une réalité au-delà des apparences de ce monde, elle doit être là tout le temps, quelque part. Et dans cet extrait, essaie de nous mettre dans cette idée-là. Je vais juste vous lire quelques paragraphes. La section s'appelle « Le chant oublié ». Et donc, là tout de suite, le chant oublié, je me suis servi de cette métaphore pour ces deux conférences que j'extrapole un petit peu, j'embellis pour dire que ce n'est pas juste un chant, c'est toute une symphonie. C'est une symphonie qui est derrière l'existence. Écoute, tu saisis peut-être comme une allusion à un état ancien, pas tout à fait oublié, vague peut-être, mais aussi étrangement familier, comme une chanson ou une symphonie dont le nom est depuis longtemps oublié et les circonstances dans lesquelles tu l'as entendu complètement effacé de ta mémoire. Ce n'est pas tout le chant qui t'est resté, mais seulement un petit brin de mélodie qui ne se rattache ni à une personne, ni à un lieu, ni à un rien de particulier. Mais cette petite partie suffit pour que tu te souviennes combien ce chant était beau, comme le cadre dans lequel tu l'as entendu était merveilleux, et combien tu aimais ceux qui étaient là et l'écoutaient avec toi. Les notes ne sont rien, pourtant tu les as gardées en toi, pas pour elles-mêmes, mais comme le doux souvenir de ceux qui te feraient pleurer si tu te souvenais combien cela t'était cher. Tu pourrais te souvenir. Pourtant, tu as peur, croyant que tu perdrais le monde que tu as appris depuis. Et pourtant, tu sais qu'il n'y a rien dans le monde que tu as appris qui te soit même moitié moins cher que cela. Écoute et vois si tu te souviens d'un chant ancien que tu connaissais il y a si longtemps et qui t'était plus cher que toutes les mélodies que tu t'es enseigné à chérir depuis. Là, il nous a parlé de la musique en utilisant l'exemple ou la métaphore de la musique. Là, il change légèrement de métaphore et il utilise la lumière. La même idée. Ce chant est partout, maintenant, c'est une lumière qui est partout. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, passé tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier, il est un arc de lumière d'oreille qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture ni limite nulle part. À l'intérieur, tout est joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas. telle est la vision du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est nous tous. Nous tous, 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 tous. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est juste le langage du cours. Et tu le connais bien. Telle est la vue de celui qui connaît son Père, ce qui est l'ensemble de la totalité, juste en utilisant le langage du cours. Telle est la mémoire de ce que tu es, une partie de cela, avec tout cela en dedans et joint au tout, aussi sûrement que tout est joint en toi. Accepte la vision qui peut te montrer cela et non le corps. Tu connais ce chant ancien et le connais bien. Rien ne te sera jamais aussi cher que cet ancien hymne d'amour que le Fils de Dieu chante encore à son Père. Donc, voilà ce qui vous donne une idée du langage lyrique, travaillé, quasi poétique du cours. Ça, c'est un passage particulièrement poétique. Et en anglais, il faut souligner qu'une très bonne partie du livre a été écrite en forme de vers. Le même maître rythmique que Shakespeare utilisait pour écrire ses livres, qui s'appelle le pentamètre iambique. Donc, en anglais, on commence à le lire et on tombe dans ce rythme, qui est quelque chose de remarquable pour le lecteur en anglais. En français, bien sûr, on le perd. On n'a pas cette même idée de maître et de rythme pareil. Néanmoins, on peut certainement entrer vraiment dans cette vision lyrique et ce mouvement dont ça parle. Et ce qu'il nous présente déjà tout de suite ici, c'est une vision de quelque chose de pur, quelque chose de magnifique. Et j'ai utilisé le mot symphonie pour bien sûr représenter quelque chose d'une beauté extraordinaire. Et le mot que je voudrais utiliser aujourd'hui, c'est innocence et pureté. Je ne l'ai pas utilisé la dernière fois, mais je voudrais bien l'utiliser, ça sera utile pour nous plus tard. C'est-à-dire que nous cherchons tous une certaine qualité de beauté, nous savons que ça doit exister quelque part, nous le recherchons par beaucoup de différents moyens. Ça peut être des moyens de lecture, d'écoute, ça peut être des fois aussi juste par les œuvres d'art. Nous avons des grands maîtres artistes qui nous ont partagé, qui ont essayé de partager leur vision de cette beauté céleste. Quel mot est-ce que nous pouvons choisir vraiment pour ça? Nous avons tous une idée quelque part. Même les gens les plus scientifiques, ils ont une idée de beauté, de quelque chose. Et la beauté, bien sûr, n'est pas quelque chose qu'on peut mettre la main dessus. La beauté est une qualité abstraite qui change pour chaque personne. Donc nous pouvons dire, nous avons tous une idée de quelque chose qui représente la beauté. Et cette beauté a plusieurs caractéristiques ou plusieurs qualités. Nous pouvons parler de joie, de grâce, de sainteté, de perfection. Et moi j'aime bien aujourd'hui innocence et pureté. Et on peut commencer à poser quelques questions dessus. La dernière fois, nous avons abordé le sujet d'une certaine optique et aujourd'hui, je veux faire un autre. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir comment nous pouvons écouter, comment nous pouvons faire pour essayer d'écouter et retrouver cette beauté qui est censée être là partout autour de nous. Et donc, il y a pas mal de spiritualité et de différentes disciplines qui nous aident avec une approche directe. Les contemplations de cette qualité, des réflexions sur cette qualité. Nous essayons d'imaginer ce qu'elle doit être. Nous faisons des méditations, des contemplations, peut-être des exercices de l'esprit pour essayer d'accéder à ça directement. Et toutes ces traditions, tous ces exercices, toutes ces pratiques ont une énorme valeur pour nous poser et nous rappeler que quelque chose existe au-delà de ce monde, parce que nous sommes tellement happés par ce qui semble la réalité et la dureté de ce monde, nous sous-estimons à quel point en fait nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde avec tous ces impératifs, tous ces besoins, toutes les exigences. Donc ces exercices nous demandent juste de nous poser quelques minutes dans la journée, et réfléchir qu'il y a un autre aspect de la réalité, il y a autre chose que nous cherchons. Et cette magnifique autre chose est partout, tout le temps, omniprésent. cette autre qualité ne peut pas être absente. Mais c'est là où j'ai été vraiment étonné par cette œuvre d'une cour de miracles, parce qu'il nous, en plus des exercices de ce style-là, où nous essayons d'accéder directement, de réfléchir directement sur la qualité, cette magnifique qualité au fond de l'existence, et je vais vous faire un petit exercice tout à l'heure, je vais vous lire à haute voix juste l'un de ces exercices. En plus de ça, il nous présente une idée très originale. Et à partir de cette idée très originale, il découle tout un système de pensée. Il nous présente tout un travail, un système de pensée et des pratiques pour avancer notre travail, pour écouter, pour pouvoir en fait écouter cette musique et percevoir cette lumière. Il nous fait poser la question, si la réalité est autour de nous à chaque instant, si, par définition, la réalité doit être réelle, la réalité ne peut pas être irréelle, elle peut sembler irréelle, mais s'il y a une réalité, elle est réelle tout le temps. Si elle est aimante, si elle est d'une beauté, si elle est d'une pureté, toutes ces qualités-là doivent être avec nous tout le temps. Donc, si c'est là, présent à chaque instant, ceci veut dire... Si je ne le vois pas, si je ne suis pas en train de ressentir, que quelque chose en moi est en train d'ignorer sa présence. Ce n'est pas n'est pas présente. Ça veut dire que quelque chose en moi est en train de ne pas le voir. Donc soit cette non-vue m'est imposée par je ne sais pas quoi, ou soit il y a quelque chose en moi qui est en train de décider et de choisir de ne pas le voir, de l'ignorer. Donc, on a un peu de mal à comprendre, à croire que quelque chose peut nous empêcher de voir quelque chose qui est tellement énorme comme la réalité. C'est comme une chanson, je vais commencer aujourd'hui à utiliser les paperboards, parce que je trouve que le tableau blanc, dans ce cas d'aujourd'hui, parce que ça sera particulièrement utile. Et puisque nous sommes dans la métaphore de la musique, je vais mettre des énormes clés de sol sur le tableau là. Nous pouvons représenter la réalité un peu comme ça. Quelque chose de tellement énorme comme une musique qui traverse l'existence. Là, je suis en train de faire un petit topo sur le, un petit diagramme sur le tableau. D'accord. Ça ne peut pas être absent, c'est énorme. C'est partout. C'est une musique qui traverse l'ensemble. C'est une totalité. D'accord. Nous parlons d'une unité. Cette philosophie, c'est une philosophie de la non-dualité pure, ce qui veut dire que l'unité totale. Il n'y a rien qui peut être exclu de cette totalité magnifique et pure. Nous faisons tous partie de ceci. Et donc, nous pouvons dire que rien ne peut nous empêcher de l'extérieur de voir et de ressentir cette présence. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui est en train de choisir de ne pas le voir. De ne pas, si c'est de la lumière, de ne pas le voir. Si c'est une musique, de ne pas l'entendre. Comme si, littéralement, je suis en train de m'aveugler, de mettre mes mains sur mes yeux et de boucher mes oreilles. Sans le savoir. Et c'est le sans le savoir qui devient de plus en plus intéressant. Donc, nous commençons avec l'idée que quelque part, si je ne vois pas, si je ne vois pas la lumière, si je n'entends pas la musique, il y a quelque chose en moi qui est en train de choisir de ne pas la voir, de ne pas l'entendre. C'est déjà une énorme nouvelle pour moi, parce que j'ai considéré toujours que c'était quelque chose qui était en train de m'empêcher de l'écouter ou de le voir. C'est une grande nouvelle pour moi, ça veut dire peut-être que j'ai plus de contrôle sur la situation que ce que je pensais, que ce que je croyais. Mais le cours nous apprend beaucoup plus de choses par la suite. Parce que je peux me poser la question, plusieurs questions. Déjà, pourquoi? Pourquoi ferais-je une telle chose de m'empêcher de voir quelque chose qui va être aussi belle et magnifique que la réalité, que la symphonie de l'être? Ça, c'est une question. Et la deuxième question, c'est, mais si je suis en train de faire ça, de choisir, je dois être au courant, je dois le savoir. C'est voilà, le cours dit non, non, tu n'es pas forcément au courant à cause d'une certaine capacité avec laquelle l'esprit s'est doté, et c'est le déni. C'est simplement que quand on n'a pas envie de savoir quelque chose, on peut faire sûr qu'on a la capacité de s'empêcher de le voir. Tout simplement. Il n'y a rien, il n'y a pas une faculté de l'esprit plus puissante peut-être que le déni. Quand on n'a pas envie de savoir quelque chose ou voir quelque chose, on peut s'empêcher de le savoir. On peut s'empêcher que ça remonte dans la conscience, dans le conscient. On peut s'empêcher de savoir quelque chose qui est néanmoins vrai. Donc il y a le déni. Ça veut dire simplement qu'il y a un choix que je suis en train de faire, de ne pas voir, mais je ne veux pas voir le choix que j'ai fait, donc je l'oublie. Je l'oublie. Okay? Et maintenant, ce que nous avons éclairé ou décrit la dernière fois, c'est de donner la raison pour laquelle nous faisons ceci, et que je vais faire un schéma encore un petit peu plus clair tout à l'heure. Parce qu'on pose la question, pourquoi ferais-je une telle chose? Et simplement parce que l'idée de dire non à la musique universelle et totale me donne une impression de m'être sorti de la symphonie, d'avoir créé ma propre musique. Je ne peux pas créer ma propre musique au sein de la symphonie céleste. Je fais partie de la symphonie céleste. Mais je ne suis pas seul et individualisé dans la symphonie. Je dois faire partie comme une note qui se fond dans la masse de cette magnifique harmonie. Mais quelque chose en moi a dit, ouais, ça va, mais j'ai une meilleure idée encore. Je préfère faire ma propre musique. Je préfère entrer dans mon propre salle de concert, comme nous avons dit la dernière fois, faire ma propre musique. D'accord, ça ne sera pas la symphonie céleste, mais ce sera à moi. C'est ça la grande différence. Le terme le cours utilise pour décrire cette identité personnelle, c'est la particularité. Ce sera ma musique particulière à moi. C'est ça ce choix me donne l'opportunité de faire. C'est d'avoir l'impression d'être sorti de cette grande symphonie céleste. Le problème, bien sûr, c'est qu'il y a un grand prix à payer. Je ne peux pas dire non à la symphonie céleste qui est vraiment l'état de la plus grande harmonie, innocence et pureté et me sentir bien. Je dois me sentir quelque part déjà en conflit avec cette symphonie. Donc le conflit, ce qui est complètement inconnu dans la symphonie, devient le point de départ pour la peur. Dans la symphonie céleste, derrière l'existence, il n'y a pas de place pour la peur parce que tout est un. Il n'y a pas d'objet et de sujet. Pour avoir la peur, il faut avoir peur de quelque chose. Mais dans la magnifique symphonie de l'être, il n'y a pas une autre chose. Maintenant, par contre, je me suis distingué, un peu séparé. Je fais ma propre musique. Il y a un objet, un sujet. Il y a le début de la peur, la naissance de la peur. Donc, j'ai dit, je veux faire ma propre musique. Je suis rempli d'une certaine tension, une certaine peur par rapport à cette opposition avec la réalité. Et c'est vécu viscéralement comme l'être humain, comme une attaque, comme si nous avons attaqué l'existence, le fond de l'existence. Comme si je me suis mis en opposition avec l'existence et je dis non, je suis moi-même. Et je gagne mon individualité au prix d'avoir anéanti psychologiquement, d'accord, dans mon esprit, la présence de la réalité autour de moi. Le fait de dire non à toute cette magnifique musique et lumière autour de moi est vécu par l'être humain inconsciemment, parce qu'on ne veut pas le voir, comme une tension, comme une agression, comme une guerre intérieure. Ce qui est vécu comme un conflit. C'est le début et la cause de tout sentiment de conflit chez l'être humain. Il ne sait plus ce qu'il est. Déjà, il ne voulait pas le voir, donc il ne risque pas de le savoir. Il se sent en conflit avec sa réalité, parce que l'être humain n'est pas juste un être humain. L'être humain est aussi autre chose, voire il est autre chose. Et son idée d'être humain est juste une minuscule, minuscule partie de son existence. Sa vraie existence est infiniment plus grande. Mais le fait de dire non, je ne veux pas savoir que je suis beaucoup plus grand que l'être humain, c'est vécu comme, pour nous viscéralement comme une sorte d'opposition, comme une tension aiguë. Mais nous ne voulons pas la voir. Donc, voilà, je l'envoie cette tension existentielle ou ce que nous appelons plutôt dans le travail de Kenneth Wapnick comme une tension ou une culpabilité ontologique, ce qui veut dire rattachée à notre idée de conception, notre propre existence, notre naissance, notre définition. Nous le mettons dans les oubliettes de l'inconscient, sachant que l'inconscient, c'est simplement ce que nous n'avons pas envie de voir. C'est pas un gros mot pour dire que il y a vraiment une partie de mon esprit verrouillée avec comment ça s'appelle dans un coffre-fort là. C'est pas vraiment un coffre-fort l'inconscient. Des fois, la façon qu'on utilise le mot, on a l'impression, c'est là dans une sorte de coffre-fort avec un code et tout ça. C'est pas accessible. C'est pas vraiment ça. L'inconscient est simplement le dépôt de ce que je n'ai pas envie de voir, principalement par peur. Ça contient des choses que je n'ai pas envie de voir. L'autre aspect, c'est que j'ai pas envie de le voir par peur. J'ai pas envie de le voir parce que ça remet en question toute mon existence. Si soudain j'enlève j'ouvre le coffre-fort et j'entends cette magnifique harmonie derrière toutes mes peurs, soudain je ne suis plus tout à fait moi-même. Je vois, je fais partie effectivement de cette magnifique symphonie. Quand j'entends la symphonie, quand je suis happé par un coucher de soleil, ou par une musique, ou par une symphonie, littéralement une symphonie d'un orchestre terrestre, je sens qu'une partie de moi se est moins définie, est moins spécifique. Mes pensées sont moins spécifiques. Je perds mes peurs, je perds mes repères, mes préoccupations, je ne pense plus à ce que je dois faire demain. Devant une grande œuvre d'art ou un magnifique morceau de musique, je ne pense plus à tous mes petits bobos. Je peux même perdre la perception d'une condition physique si je suis malade en écoutant une musique. Je n'ai plus une façon très spécifique de focaliser sur ma réalité quand je me sens déplacé vers l'extérieur pour rejoindre cette harmonie qui est autour de nous. Et il y a une partie de nous qui adore ça, c'est notre esprit juste, il y a une partie de nous qui ne veut pas y aller, qui ne veut pas aller dans cette direction. La partie de nous qui est très attachée en fait à notre individualité, à notre personnalité, à notre expérience de cette vie ici, à notre particularité. Donc on met dans l'oubliette, par contre la tension est toujours vécue chez l'individu. Ah oui, il faut faire quelque chose. On ne peut pas juste le laisser là, alors je ne peux pas juste prétendre faire ma vie, et j'ai toute cette tension ontologique ou existentielle dans cette oubliette-là, j'essaie de verrouiller le coffre-fort, et pourtant, ça vibre de sorte de décision d'attaque contre la réalité, contre ma propre réalité. Je sens ces vibrations, cette énergie, ce mouvement au fond de moi. Et donc, on a créé ou on a fabriqué une autre façon de nous débarrasser, de nous décharger de ce sentiment, et ça s'appelle la projection. D'accord ? C'est simplement que maintenant je me promène dans la rue et je ressens cette tension intérieure, mais au lieu de verrouiller le coffre pour savoir que cette tension vient de ma décision constante de dire non à la réalité et la symphonie autour de moi, je dis non, c'est certainement pas ça, verrouiller, bloquer, barrer la porte et tout ça. Maintenant, je vois plein de choses ici sur ce plan qui m'enquiquinent, qui m'embêtent, qui sont un vrai problème pour moi. Donc, j'ai utilisé un petit peu à l'infini l'exemple du pneu crevé, de la cafetière qui ne marche pas le matin, voilà, le réveil qui ne marche pas le matin. De notre patron peut-être qui ne nous sert pas la main le matin, donc on pense qu'est-ce que je lui ai fait, et puis après il nous appelle dans son bureau, on voit un petit mot sur notre bureau, il nous envoie un petit SMS pour dire rendez-vous dans mon bureau à 10h, il m'a pas serré la main le matin, et là je commence à avoir peur. ou c'est plutôt une condition physique qui se fait sentir chez moi. Et puis, malheur de malheur, je regarde sur Internet pour voir ce que les autres personnes ont vécu, à quoi peut correspondre ces symptômes. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais c'est la pire chose que vous pouvez faire parce que vous êtes sûr dans les 5 minutes qui suivent que vous êtes mourant. D'accord, vous avez une simple rhume peut-être, mais avec une condition ici et là-bas. Et puis vous regardez, vous mettez les symptômes sur Internet et c'est un cancer terminal et tout le reste. Non, vous n'avez pas vécu ça? Nous, on l'a fait. Vous devez le voir peut-être des fois, les gens qui, hein, étant médecin, vous devez voir les gens. Ah, j'ai regardé sur Internet et puis les patients viennent maintenant, ils pensent qu'ils savent mieux que vous. Oui, j'ai vécu ça moi-même. Je veux dire, j'ai fait moi-même. Je suis venu chez mon médecin et il dit, c'est pas du tout ça. Non, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas mourant. Je vous promets que c'est juste une douleur intercostale. Hein? N'est-ce pas? Non, c'est une crise cardiaque, je suis sûr. Non, c'est une douleur intercostale. Et donc, vous repartez à moitié soulagé. Donc, c'est la partie de nous, effectivement, qui réjouit presque dans toutes ces bobos, toute cette idée de crise en nous. Nous trouvons multiples différentes façons d'avoir une expérience de douleur dans cette vie ici. Le coffre-fort est toujours là. Le coffre-fort a toutes les solutions, a toutes les réponses. Toutes nos décisions, nos choix de dire non à cette symphonie, nous l'avons mis dans le coffre-fort, mais nous ne voulons pas le regarder parce que nous ne voulons pas remettre en question la base sur laquelle tous ces choix sont basés, c'est-à-dire le choix de dire non à cette autre réalité de laquelle je fais partie. Je préfère trouver beaucoup d'autres raisons pour lesquelles j'ai mal. Je préfère trouver beaucoup d'autres raisons pour lesquelles j'ai mal, des raisons qui ne sont pas justes. Ce n'était pas une crise cardiaque, et même si je suis cardiaque, ce n'est pas les conditions physiques qui nous font le plus mal. C'est la condition psychologique autour de notre condition physique qui nous fait mal. Nous pouvons subir énormément de douleurs physiques si nous n'ajoutons pas multiples couches de psychologie dessus. D'interprétation, de perception, d'être souffrant, d'être en difficulté, d'avoir raté sa vie, d'être un échec, d'être victime, ceci, cela. C'est très souvent la douleur psychologique associée avec une douleur physique est encore plus dure à vivre. Et donc, nous nous trouvons à la fin avec cette magnifique mélodie à laquelle on a dit non. Le non, on a mis dans le coffre-fort. La tension, maintenant, en vit partout dans sa vie. Nous allons en parler un petit peu plus clairement tout à l'heure pour vous démontrer comment tous ces petits morceaux s'emboîtent. Je suis en train maintenant d'entrer vraiment dans les différentes idées et concepts du cours parce que si ça s'appelle un cours en miracle, c'est parce que c'est un cours, il nous apprend des choses, il nous partage des idées, des concepts. Des concepts qui commencent à restructurer notre pensée, ou au moins nous donner une opportunité de voir les choses différemment. Et dans ce nouvel cadre ou structure de pensée, nous avons une chance de dire d'une façon quotidienne, « Ah, je sais pourquoi j'ai vécu ça. Je sais maintenant, ça me donne une autre explication pourquoi j'ai eu peur. » Le chauffard qui a failli me rentrer dedans, mais qui n'a pas fait, j'ai explosé à l'intérieur. D'accord ? Il m'a raté, mais... D'accord ? Mais peut-être de ne pas très près quand même. Un petit peu de distance, mais je sens quand même une sorte de tension ou une sorte de drame de ressurgir au moins. Ou quand j'ai quelqu'un qui m'appelle, j'ai eu peur de son appel, finalement c'était rien de tout, mais on voit qu'on a fait tout un drame d'absolument rien de tout. Comme s'il y a un drame en nous. Et il suffit d'une petite chose des fois pour mettre le doigt dessus, pour le réveiller, pour c'est une sorte d'étincelle. Et voilà, on voit toute une sorte les feux d'artifice, ça s'appelle le pyrotechnics. Oui, en anglais, on dit le oui, ça va pas marcher en français. Voilà. on voit toute une explosion de, d'idées, de perceptions, d'interprétations. On s'est créé plein de différents scénarios. Et en fait, c'était rien de tout. C'était juste ta maman qui t'appelait pour dire voilà, ne viens pas à midi parce que je ne serai pas prêt, viens plutôt à une heure. Et on a fabulé plein de différentes idées ou de choses dans la tête, comme pour dire elle va m'engueuler encore parce que je serai en retard. Il y a une sensibilité en nous. Chez certaines personnes, c'est à fleur de peau. Chez d'autres gens, c'est un petit peu moins sensible. Mais ce qui nous donne cette sensibilité, cette susceptibilité, c'est tout un cadre de pensées qui sont occultées de notre conscient. Et ce que le cours essaie de faire, c'est de nous montrer ça dans une certaine structure. Donc voilà, c'est un cours avec des idées, des concepts. Donc je vais utiliser le tableau blanc aujourd'hui pour faciliter l'intégration d'idées, la façon que les idées s'emboîtent. Juste pour le finir, pour parler du titre du livre, un cours, oui, en miracle. Pourquoi un miracle? Le miracle, c'est simplement un changement de perception, un changement d'attitude, un basculement d'esprit. Le cours nous apprend, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous n'avons pas qu'un esprit que nous pensons souvent, nous en avons deux en réalité. Nous avons l'esprit juste et l'esprit faux. L'esprit faux qui est basé dans l'individualité et avec tout ce que ça comprend de peur, d'anxiété, de frustration, d'irritation, de sensibilité, susceptibilité, aussi de tristesse, de solitude, parce que c'est, après tout, c'est individuel, donc c'est coupé. Et par la suite aussi, tout ce qui découle de la peur, c'est la haine, la frustration, tout ce que nous pouvons considérer les pensées négatives. De l'autre côté, nous avons un esprit à part, qui s'appelle l'esprit juste, qui est le siège du souvenir de notre réalité, qui est joint, dans lequel nous nous sentons plus en harmonie avec les autres, mais plus encore joint avec les autres. C'est ça vraiment le mot clé, joint par rapport à indépendance, séparée et coupée des autres. Et le miracle, c'est simplement ce basculement de notre esprit faux en esprit juste. C'est un miracle parce que c'est à cet instant-là, nous sommes en train d'ouvrir le coffre-fort, nous dévoilons son contenu et nous voyons enfin que tout ce qui me faisait mal n'était pas ce que les autres me faisaient ou ce que cette vie me faisait. Ce qui m'a fait mal au fond, c'était ce choix à l'origine de me couper de ma source, de dire non à la réalité qui est toute autour de moi. Je me suis fait mal. Et donc, en retournant mon choix, en disant non, je n'ai pas envie de continuer à me faire mal en bloquant mes oreilles et en couvrant mes yeux, je ressens un soulagement énorme en sachant que j'ai l'amour qui est un partenaire avec moi, qui est une présence avec moi. Plus que ça, je suis aimable. Je peux aimer. Je suis aimable. Nous sommes aimables. Nous ne nous coupons plus de l'amour. C'est le fait que nous nous coupons de l'amour qui nous donne l'impression de ne pas être aimables. Nous nous disons que nous ne sommes pas aimables. Et cette pensée-là, dans le coffre-fort. Donc nous vivons tous très longtemps avec la pensée que nous ne sommes pas aimables. Parce que nous disons de toute façon, l'amour n'est pas là pour moi. Donc je ne suis pas aimable. Et si l'amour n'est pas là pour moi, ce n'est pas parce que c'est une réalité, c'est parce que j'ai mis la pensée dans le coffre-fort qui dit, l'amour n'est pas là pour moi. Donc c'est un cours en miracle, un cours pour nous aider à basculer, à faire ce basculement d'esprit entre l'esprit séparé, l'esprit uni, l'esprit de la peur, l'esprit de l'amour. Ok. Après tout ce processus, cet énorme processus de dire non à la symphonie, bloquer nos oreilles, couvrir nos yeux, nous l'avons nié, voilà dans l'oubliette, par la suite, projection partout, tout me fait mal et je ne sais même pas pourquoi, parce que des fois, j'ai un pneu crevé, je saute au plafond, regarde ce que le pneu m'a fait, mais à d'autres moments, ça ne me fait rien du tout. Oui, j'ai un pneu crevé, donc il fallait le régler. Un matin, c'est la cafetière qui marche pas. J'ai vraiment envie de mon café ce matin-là. La cafetière a planté. J'ai pas eu mon café. J'ai dû aller au travail sans mon sans dose de caféine ou je ne sais pas. Nous avons tous quelque chose presque dont nous dépendons. Si c'est juste un verre d'eau ou un peu de nourriture le matin ou à midi. Si vous n'avez pas pu manger à midi et vous avez, voilà, vous comptez dessus, un bon petit repas, des fois ça nous arrive. Et avec 4 heures, 5 heures, c'est des fringales ou c'est autre chose et on commence à être un petit peu comme ça. Alors on peut être énervé, peut-être quelqu'un nous a empêché de manger à midi. Et voilà, il y a toute une pensée de peut-être injustice par rapport à cette personne qui a sonné à votre porte au mauvais moment ou qui vous a appelé par la suite une autre personne, machin, tout ça. Il peut avoir toute une vague de jugement par rapport aux gens qui vous ont empêché d'accomplir votre rituel de tous les jours qui, sur lequel vous basez une bonne partie de votre bien-être, de votre système. Et puis j'ai perdu complètement le fil de ma pensée, ce qui m'arrive des fois. Ça m'amuse des fois. Voilà, c'est pas grave. Je m'en fiche. Hein, je commence ailleurs. Hein, je fais autre chose. Ou c'est peut-être la pause café. Je ne sais pas. C'est peut-être le moment d'aller prendre un verre ou quelque chose. Hein. Et il est quelle heure d'ailleurs?
C'est l'heure de pause café.
L'heure du pause café. Ça c'est déjà une bonne dose, mais c'est très bien parce que je sais ce que je voulais dire. Juste avant la pause, parce que on est exactement là où je voulais être. Mais il est quelle heure d'ailleurs? Il est ah c'est parfait, d'accord. Parce que ça fait une heure qu'on a on fait causette. Ok. Hein? Oui, ah, oui, bon, oui, c'est une façon de parler. Hein. Oui. Je fais causette et vous écoutez. C'est juste pour dire, après tout ce processus, bam, 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 c'est comme si une échelle que nous avons descendu une échelle sans savoir que nous étions haut là. Maintenant, nous sommes à ce niveau. C'est pas un niveau très haut. Quand nous parlons de chemin spirituel et tout ça, tout le monde parle en termes de montée. On ne parle jamais en termes de descendre. C'est assez rare. Donc, nous avons une idée que, d'accord, nous devons monter. Ça veut dire quelque part, nous y étions. Et c'est à peu près, nous sommes dans le même gabarit ici. Boum, 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 nous arrivons en bas. Et notre expérience aujourd'hui, c'est que, voilà, j'ai mal. Je suis séparé, je suis moi-même. J'ai mal, j'ai une certaine sensibilité, vulnérabilité, mais quand même, c'est pas vraiment ma faute. Si seulement les gens faisaient ce que j'avais envie qu'ils fassent quand je veux, si seulement les choses s'emboîtaient exactement comme je voulais, je finirais ma journée vraiment dans un état de perfection sublime. À la fin de la journée, si quelqu'un demande comment était ta journée, tu as presque toujours un récit des choses positives et des choses négatives qui vous est arrivées. D'accord. La plupart du temps que nous rentrons à la maison, c'est très rare que nous avons dit « J'ai flotté tout aujourd'hui, j'ai été dans un état sublime de paix et de bien-être. » C'est relativement rare. Je ne sais pas si ça vous arrive. Hein? Ça arrive? J'ai vous essayé de ma place, parce que franchement... l'idée ici, c'est effectivement, si nous avons suivi un chemin spirituel, nous pouvons monter le niveau, la moyenne, très, très haut. Néanmoins, si nous ne pouvons pas dire que littéralement j'ai été habité et j'ai ressenti la paix parfaite de l'univers et de Dieu ou n'importe la figure que vous voulez utiliser, le symbole que vous utilisez, si nous ne vivons pas entièrement dans cette présence-là, donc comme les plus grands sages, nous pouvons dire que nous avons déjà un petit peu de chemin encore à faire. Et nous pouvons dire que nous habitons, nous demeurons à un moindre niveau. Si eux, ils sont là, je suis là. Et mon idée, quand même, c'est d'atteindre ce niveau de perfection uniquement par envie. Pas parce que c'est mieux, mais parce que ça nous est tendu comme un offrant. La lumière est là, nous pouvons le vivre tout le temps si nous voulons. Voilà. L'idée simplement, ça c'est le point de départ pour la partie après la pause, c'est simplement c'est que le système de pensée dans lequel nous nous sommes tombés, c'est le système de pensée de l'esprit faux, de l'individualité qui dit « je suis moi-même, j'ai une vie différente des autres. J'ai une histoire différente des autres, j'ai une future différente des autres. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas vraiment ma faute que ma vie est... Oui, je suis responsable pour certaines choses, mais le ressenti que j'ai au fond de moi d'être coupé de l'univers n'est pas vraiment ma responsabilité. C'est une responsabilité que peut-être je partage avec tout le reste. C'est peut-être un peu subtil, mais on va regarder ça un petit peu, vous allez mieux comprendre, mais deuxième partie. Quand on revient, j'ai envie de faire avec vous, de compléter ce schéma et de parler de quelques grands enseignants de l'histoire qui nous aident et qui nous ont aidés à déchiffrer, à trouver les différents morceaux de ce grand puzzle qui est notre chemin vers pour re-écouter, pour re-entendre cette symphonie autour de nous. Faisons une pause. Donc rendez-vous dans un quart d'heure à peu près. Ça marche? Ok. Parfait.